إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer inshallah ce troisième cours, la série de cours d'aujourd'hui sous le titre voici notre prêche hadi da'watuna de Cheikh Mohamed Saïd Raslan hafidahullah ta'ala. Et juste avant de commencer, on avait dit qu'après le maghrib on ferait autre chose inshallah. On était censé finir ce livre en trois cours. Je vous avais dit que normalement on devrait le finir. On a fait beaucoup de parenthèses. On va essayer, mais je pense pas qu'on le finira. Wallahu alam, on verra inshallah. Après le maghrib inshallah, on va faire un cours de l'Ha'iyad ibn Abi Daoud rahimahullah, le fils de l'imam Abu Daoud al-Sijistani, celui qui écrit Sunan, et qui s'appelle Ha'iyah, qui est un poème dans l'Aqida. Et tout le cours sera juste sur le premier vers de poésie inshallah de cette Aqida là. Hein? Et donc maintenant le troisième cours de Hadi Da'watuna, Cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafidhahullah ta'ala, il dit: on est arrivé à quel fondement? On est toujours au premier ou là on est arrivé au deuxième ou pas? Hein? Qui se rappelle? Pour voir si vous suivez ou pas. On est arrivé à la parole de qui? De l'imam Sabouni, rahimahullah. Hein? D'accord? Eh bien, en fait, on n'a toujours pas commencé les fondements. Tout ça, c'est encore que l'introduction. Hein? D'accord? Mais bon, alhamdoulilah, il y a déjà pas mal de fondements qu'on a rapportés, etc. Mais les six fondements auxquels je faisais référence, qui sont très courts de toute façon, on ne les a pas encore commencés, en fait. On avait rapporté la parole de l'imam Sabouni, rahimahullah, dans son livre Aqid al-Salaf Ashab al-Hadith, et qui avait cité une parole de l'imam, hein, al-Hakim, dans Ma'rifat Ulum al-Hadith. Donc, Cheikh Raslan dit: wa aqulu ma ashbaha al-laylata bil-bariha. En référence à quoi? Au fait que les gens de l'innovation, al-bid'a al-ahwa, qu'ils donnent des noms aux gens de la sunna, des al-qab, hein, des sobriquets, comme on dit en français. فأهل الأهواء والحزبية وأهل الفرقة الردية شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن على علماء أهل السنة من أصحاب منهج النبوة ومنهج السلف، وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذ والنعل بالنعل، والله المستعان. وحتى تقوم الحجة وتنقطع الأعذار أذكر بحول الله وقوته أصول دعوتنا حتى تعلم الدنيا حقيقة التدليس والتلبيس الذي يمارسه أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا وبزينا ويلبسون على المسلمين من قومنا وهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله جل وعلا من شرورهم ونجعله تعالى في نحورهم وهو المستعان وعليه التكلان. Donc Cheikh Raslan, hafidhahullah, il finit cette très belle introduction pour les gens qui n'étaient pas là dans les deux premiers cours, essayez de suivre quand même inshallah, mais ils seront disponibles sur notre site sbfbirmingham.com inshallah. Si vous voulez que les responsables vous donnent le site, ils vont être disponibles en écrit et en audio inshallah. Donc je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Saïd Raslan, comme cette nuit ressemble à hier, les gens des passions et du partisanisme et les gens de la division détestables ressemblent à leurs frères parmi les anciens innovateurs dans leur critique des savants, des gens de la sunna, les gens de la voie prophétique et de la voie des pieux prédécesseurs. Les innovateurs dans la religion contemporaine ressemblent aux innovateurs dans la religion des anciens temps, comme se ressemblent deux sandales identiques. C'est l'expression en arabe pour dire qu'ils se ressemblent complètement. Et c'est d'Allah seul dont nous implorons le secours, subhanahu wa ta'ala. Et ce, afin que les preuves soient dressées et qu'il n'y ait plus d'excuses, je vais citer, en demandant la force et la puissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, les fondements de notre prêche, afin que le monde sache la réalité de la fraude et de l'ambiguïté que pratiquent certains parmi les nôtres, et qui parlent notre langue, et qui s'habillent de la même manière que nous, qui trompent les musulmans parmi les nôtres, et qui sont en réalité des prédicateurs placés aux portes de l'enfer. Ça fait référence à quel hadith, hein? Hadith qu'on a cité tout à l'heure, hein? Du'atun ala abwabi jahannam. Le fameux hadith que j'ai cité, il est rapporté dans Musadrak al-Hakim, alayhi rahmatullah. Donc, et nous cherchons refuge auprès d'Allah le Très-Haut contre leurs maux, et nous demandons à Allah qu'il les écarte de nous, et ce n'est que de lui dont nous implorons l'aide, et en lui seul que nous plaçons notre confiance. Donc après cette introduction, qu'on a fait en deux cours et un petit peu, on va faire ces fondements, inshallah. Et le premier fondement, c'est Nad'un nas. Donc c'est quoi? Hadi da'watuna, nad'un nas, kunan nas, il hadi l'usul. L'asul awwal, nad'un nas, il a tawhid illah azza wa jal, wa adam shirki bih. وهذا الأصل هو مقتضى لا إله إلا الله فهي نفي وإثبات لا ولا بد من النفي والإثبات معا لا يغني أحد عن الآخر والنفي والإثبات دين المرسلين أجمعين فكل النبيين المرسلين قالوا لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يدور عليهم بها في مجامعهم ومنتدياتهم وأسواقهم وكانوا يعلمون معناها ويعرفون مقتضاها ويدركون أنها تعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله قال الله لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون لأن الرجل إذا قام يحذر من الشرك وينهى عنه تحذيرا إجماليا من غير تفصيل وافقه على دعوته أعظم المشركين شركا وكذا إذا قام يدعو إلى التوحيد دعوة إجمالية من غير تفصيل وافقه على دعوته أعظم المخالفين. Voici notre prêche. Nous appelons les gens, tous les gens, au fondement suivant. Le premier fondement, nous appelons les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, et à ne rien lui associer subhanahu wa ta'ala. Et ce fondement est ce qu'implique l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, car c'est une négation et une affirmation. Beaucoup de gens, ici, ont un point à faire par rapport aux frères qui connaissent un peu la langue française et qui ont un peu lu des traductions des fois erronées en langue française. Il y a une mauvaise traduction qui tombe dans beaucoup de livres, qui est de traduire la ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu. C'est faux, c'est une traduction qui est fausse. C'est une traduction qui ne reproduit pas le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, le sens est la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc ça doit être traduit par nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Ou quelque chose de similaire. D'accord? La ma'bouda bihaqqin illallah, c'est ça le sens. Parce que la ilaha, c'est nafi jami' ma yabadu min dunillah. C'est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il y a un deuxième pilier qui est quoi? L'ithbat, l'affirmation, illallah. Donc il y a un nafi et un ithbat. D'accord? Et voyez l'importance de la langue arabe. De prendre la religion en quoi? En langue arabe. C'est pas la même chose. Et si au moins on prend des traductions qui sont des traductions de confiance. Des gens de confiance. Qui connaissent le sens des terminologies. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure dans les deux cours, on fait beaucoup d'arrêts sur les terminologies. Parce qu'on n'a pas le choix. Ou on est honnête vis-à-vis du texte et vis-à-vis des gens, et vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Et on fait terminologie par terminologie, on explique ça comme il faut, avec l'explication des ulama, ou alors on fait rien du tout. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'ici, c'est une notion fondamentale en islam. Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre en islam? Tu dois faire quoi pour rentrer en islam? Tu dois faire shahada. Shahada an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Et beaucoup de musulmans ne connaissent même pas le sens de la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Et c'est pour ça qu'ils traduisent de manière erronée, parce qu'ils ne connaissent pas le sens en vérité. Et là, ils vont te dire, la khaliqa illallah. Il n'y a de créateur que Allah. Et ça, les moussidiques, ils ne croyaient pas en ça. Voilà, si tu leur demandais qui écrit les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Allah. Bien sûr. Donc, le sens de la ilaha illallah en arabe, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah, subhanahu wa ta'ala. Illallah. Et en français, on peut traduire ça par nul n'est en droit d'être adoré, à part Allah. Ou bien il est adoré avec vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une négation et une affirmation. Et il faut absolument la négation et l'affirmation, car l'une ne peut se suffire de l'autre. Il doit absolument avoir cette négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah et l'affirmation de l'adoration à Allah de manière exclusive. On adore Allah et on adore Allah seul. D'accord ? C'est pour ça que la langue arabe, encore une fois, on lit tous le Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mais pourquoi, ici en arabe, l'importance que Iyaka est avant le verbe ? Vous savez ça ou pas ? Hein ? Le Coran ici ne dit pas wa na'budu Iyaka. Mais il dit quoi ? Wa iyaka na'budu. Ça veut dire toi nous adorons, toi seul nous adorons. Tu fais le hasr. Id. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر chez les ulama. Hein? C'est-à-dire que ça a valeur de quoi? De restriction dans la langue arabe. Hein? Faire passer avant ce qui doit être après, ça a valeur de restriction chez les ulama. Donne un exemple pour faire comprendre. Si tu dis à un frère, Ra'aytu Muhammadan, ça veut dire quoi? J'ai vu Muhammad, ouais? Ou pas? Mais ça peut dire aussi, j'ai peut-être vu Zé, j'ai peut-être vu Rachid, j'ai peut-être vu hein, Zoubir, j'ai peut-être vu d'autres personnes avec lui. Mais quand tu dis Muhammadan ra'aytu, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu Muhammad et je n'ai vu que Muhammad. Vous comprenez un peu dans le sens linguistique ici? Donc, Iyaka na'budu, toi nous adorons et toi seul nous adorons. C'est ça que ça veut dire. Hmm? D'accord? Donc, la langue arabe, elle est importante pour comprendre la religion. Donc la négation et l'affirmation sont toutes de la religion de tous les envoyés, car tous les prophètes et tous les envoyés ont dit à leur peuple, ce dont la traduction du sens est, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appelait les gens à cette attestation que nous n'est en droit d'être adorés par Allah. « La ilaha illallah. » Et il faisait avec cette parole le tour de leur lieu de réunion, de leur cercle et de leur marché. Ils en connaissaient le sens. Pourquoi? Parce que c'était des Arabes purs. Ils savaient le sens de « La ilaha illallah. » Hein? Certains d'entre nous ont dit la ilaha illallah, on ne sait même pas ce que ça veut dire la ilaha. Mais les Arabes de l'époque, ces Arabes aqhah, ils connaissaient les sens de la langue arabe. Donc quand le prophète a dit qulu la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Ce que ça impliquait. Hmm? Et c'est pour ça qu'ils ont dit quoi? Aja'ala. Hein? Qu'est-ce? Aja'ala al-alihata ilaha wahida. Hein? Est-ce qu'il a fait toutes les divinités? Hein? Un dieu unique? D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris directement, c'est ça, ils ont compris que cette parole-là, qu'est-ce qu'elle impliquait? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a dit, il appelait les gens à cette attestation, que nous mettons en droit d'être adorés par Allah, et il faisait avec cette parole autour de leur lieu de réunion, de leur cercle, et de leur marché, et ils en connaissaient le sens, et ce qu'elle impliquait. Et ils comprenaient que cela avait pour sens de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils dirent, ce dont la traduction du sens est, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Sourate Sad, verset 5. Donc nous appelons les gens à l'unicité en général et en détail. Et nous leur interdisons d'associer à Allah en général et en détail. Et nous ne nous suffisons pas de la généralité lorsque nous ordonnons aux gens l'unicité. Et que nous leur interdisons d'associer à Allah comme le font ceux qui s'opposent à nous. Il y a toujours cette notion d'obligation de tawhid et d'interdiction de shirk. Et le Coran il est clair là-dessus. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Car si un homme, regardez ce qu'il dit le cheikh ici, c'est important ça. Faut pas, c'est pour ça que je vous dis, la da'wah des gens de la sunna, c'est pas une da'wah qui accepte hein, de se baser que sur des généralités comme ça. C'est la voie du mufassal, c'est la voie du détail. Par si un homme se met à mettre en garde contre l'association, admettons qu'un homme il dit, il ne faut pas faire le shirk. Hein, il a interdit, il met en garde contre l'association à Allah. Et l'interdit en mettant en garde de manière générale, sans détail. Ceux qui associent de la pire des associations, ils seront d'accord avec son appel. Ils n'auront pas de problème avec ça. Hmm? De même, s'il se met à appeler à l'unicité de manière générale, sans faire de détails, les pires des opposants seront d'accord avec son appel. Car lors du détail, les choses se mettent en évidence. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, même parmi les gens de l'islam, et même des gens qui se revendiquent de la sunna, ils n'aiment pas trop le détail. Hein? Ils n'aiment pas trop les détails, les gens du détail. Pourquoi? Parce que c'est le détail qui se distingue les choses. Car lors du détail, les choses se mettent en évidence et les réalités apparaissent clairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'unicité en général et en détail. Et a interdit l'association à Allah en général et en détail. Et c'est cela la voie des mursalines, la voie des envoyés. Nous appelons donc à l'unicité en général et en détail et nous leur interdisons d'associer Allah en général et en détail et nous ne nous limitons pas en généralité lorsque nous ordonnons l'unicité et nous interdisons l'association à Allah comme le font ceux qui s'opposent à nous. Mais de plus, nous faisons le détail au sujet de l'ordre et de l'interdiction. comme Allah le Très-Haut a fait le détail et comme son messager sallallahu alayhi wa sallam a fait le détail. Nous appelons au sens correct de la ilaha illallah. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de retenir en arabe pour les arabophones, la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. On aurait pu faire i'rab, l'analyse grammaticale de cette shahada là, ça prend trop de temps, c'est très intéressant. En fait, pour savoir, hein, qu'est-ce qu'indique cette attestation-là, etc. Hein, et l'explication des ulama, hein, etc. par rapport à cette attestation. Les ulama, ils ont fait des livres entiers sur cette attestation-là. D'accord ? Il est donc obligatoire de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, donc quiconque mécroit au ta'out, famille yakfur bi ta'out, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha. Ila akhir al-ayat. Donc Cheikh il dit, il adou ila al-ma'na as-sahih li la ilaha illa Allah, wa annahu la ma'budu bi haqqin illa Allah. Falabuda min al-kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah. Qala jalla wa 'ala, famille yakfur bi ta'out wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha. Wa at-ta'out. Maintenant, c'est quoi le ta'out? On met yakfur bi ta'out. On doit mettre au ta'out, mais c'est quoi le ta'out? Le ta'out, les ulama ont donné une définition, ils ont dit, kullu ma tajawaza bihi l'abd haddahu min ma'boudin ou matbou'in ou muta'. Donc, sur ce point-là, ici, le ta'out est quoi? D'abord, je rapporte le verset de Surat al-Baqarah 256, qui, dans la traduction du sens, est. Donc, quiconque mécroit au ta'out, tandis qu'il croit en Allah, saisit, hein, quoi? Al-urwa, hein? Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, l'infisama laha. Lance la plus solide qui ne peut se briser. Le ta'out est tout ce en quoi le serviteur dépasse sa limite, comme celui qui est adoré, hein, et qui il est quoi? Il est satisfait, c'est la waradin, hein? Celui qui est suivi et celui qui est obéi. Cheikh Ali nous apprend l'unicité d'Allah. Nadou ila tawhid Allah jalla wa ala fi rububiyatihi. Vous rappelez, j'ai rapporté trois catégories de tawhid. Les ulama de l'islam, ils ont regardé le Coran et la Sunna, ils ont vu que le tawhid, il est divisé en trois catégories. Et le tawhid, il ne sort pas de ces trois catégories-là. Hein? D'accord? Mais les ulama sont tous d'accord sur ces trois catégories-là. C'est ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma al-sifat. C'est l'unicité d'Allah. De quoi qu'on appelle une cité de, hein, de seigneurie, rububiyya. D'accord? On va expliquer un peu ça, sans rentrer trop en détail. Le tawhid de quoi? D'adoration, tawhid l'ibadah, mais on l'appelle aussi tawhid l'uluhiyya, tawhid de divinité. D'accord? Hein? Parce que le mot en français divinité, il peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens de nom commun et le sens de. Hein? Donc, tawhid de divinité et tawhid l'asma wa sifat. Des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyya, c'est quoi? Fahuwa mutafarridun bil mulki wal khalqi wa tadbiri wal imadati wal ihya'i wa ghiri dalik. Donc on appelle Astawhid, on appelle tous les gens Astawhid al-Rububiyya. Hein? D'accord? Est-ce que les mouchriquins à l'époque du prophète, ils avaient ce problème avec ce genre de Tawhid là? Est-ce que, hein? Quand ils ont un problème, est-ce qu'ils avaient un problème avec ce que Allah fait vivre, Allah fait mourir, Allah il donne rizq, Allah, hein, il a créé les cieux, la terre, il nous a tous créés. Ils avaient un problème avec ça ou pas?
Non.
Ils croyaient en cela. Alors que nous, il était le problème. Et c'est là la bataille entre tous les prophètes et les messagers et leur peuple. C'est dans le tawhid l'ibada. Ils affirmaient le fait qu'Allah est le seul qui crée, le seul qui fait mourir, le seul qui fait vivre, hein? Le seul qui donne le rizq, etc. Mais il ne voulait pas lui vouer une adoration exclusive. Donc, cher, il dit ici, et nous appelons à l'unicité d'Allah le trouver dans sa seigneurie, tawhid al-rububiyya. Car il est unique dans la royauté, et la création, et la gérance, et dans le fait de faire mourir, et dans le fait de donner la vie, et autres. Et toutes les autres choses. Et nous appelons à l'unicité d'Allah, et nous appelons à tawhid Allah, jalla wa ala, fi uluhiyatihi. بصرف جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة له تعالى وحده لا شريك له. Et nous appelons à l'unicité d'Allah dans sa divinité en lui vouant de manière exclusive de tous les genres d'adoration intérieure et extérieure sans ne rien lui associer. Vous allez dire, mais Akhi, pourquoi tu parles de ça? Tous les musulmans savent ça. Il y en a qui disent ça. Akhi, parle d'autre chose. Déjà de 1, On va en parler, Inch'Allah, parce que la da'wah des prophètes et la da'wah des ulama, elle est basée essentiellement là-dessus, et c'est le plus important dans la religion. Et celui qui voyage un petit peu, ou qui regarde un peu autour de lui, il voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le tawhid. Hein? Je vois ici des gens de plusieurs pays, on va pas aller très loin, au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Égypte, hein, et beaucoup d'autres pays, etc., hein, au Mali, ou je sais pas, au Sénégal, etc. Il y a beaucoup d'actes d'association qui sont commis. Les gens, ils vont dans les tombes, ils vont tourner autour des tombes, ils vont adorer, hein, les gens qui sont dans les tombes. Ils vouent des actes de ribada comme les fêtes d'égorger, d'abah, hein, etc., pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent de l'aide de l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et etc., beaucoup de choses. Hein, même des gens qui commettent du sihr, c'est très répandu dans le Maghreb. Alors que le sihr, il fait sortir de l'islam celui qui le commet, etc. Donc c'est des notions qui sont fondamentales, qui annulent. Les annulatifs de l'islam, c'est quelque chose qui annule l'islam de quelqu'un, c'est pas un jeu, c'est grave. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces choses-là. D'accord ? Donc c'est important de rapporter le tawhid en général et en détail, d'expliquer ça aux gens autour de nous. Beaucoup de gens disent des paroles de shirk, ils font des actes de shirk, ils ont peut-être des croyances de shirk sans même s'en rendre compte. Et même certains, ils croient que ça fait partie de l'islam. Ils disent non, c'est pas shirk, c'est tawassul ça. Hein? C'est tawassul. Tawassul qui est légiféré, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est légiféré dans le Coran et la Sunna. C'est que tu demandes à Allah par ses noms et ses attributs. C'est quoi le dalil? Walillah l'asma al-husna? Aya wadiha. Ya Rahman, Rahamni, hein? Hein? Ya Ghaffar, Ghafirli, etc. Les hadiths que vous connaissez, les tawassul de Asma al-Sifat que vous connaissez certainement. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans tawassul? De l'a'mal? As-saliha. Comme le hadith des trois qui étaient bloqués dans la caverne et qu'un rocher qui les a bloqués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les sorte de cette situation-là par le fait qu'il était bien avec ses parents. On va pas avoir le hadith, je l'ai traduit complètement sur notre site, allez voir si vous voulez, en long ou en large. Hein? Il a demandé parce que le fait d'obéir aux parents et de préserver les droits des parents, c'est très important l'islam. Beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de tawhid, ils parlent directement après de qui? Des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Regardez ici l'interdiction, hein, ou plutôt l'ordre de tawhid, l'interdiction du shirk, et justement après quoi? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beaucoup de versets, beaucoup. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقي كوا ووصينا الإنسان بوالديه. Regardez الوصية بالوالدين très important. والله يا إخوة je parle pour moi en premier, hein, mais on doit faire attention avec nos parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin de la de fait le bir الوالدين. Et c'est quelque chose de très grave en islam, de uquq al-walidain. Et ça fait partie de quoi, uquq al-walidain? Le kaba'ir. Attention, kaba'ir, on parle de kaba'ir de l'ouvre ici. Uquq al-walidain, c'est quelque chose de très grave. Allah dans le Coran, il t'a même pas permis de dire off. Il y a plus bas que ça. S'il y avait plus bas que ça, l'interdiction serait là. Wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan. كريمة نصبح سيسي كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا القرآن كما الكلام هذا من السنة كما الكلام. Si je me souviens bien, c'est Abu Hurairah radhiyallahu anhu, il a dit le fait de faire ikram al-walidain, c'est le fait que tu t'assis pas tant que ton père il est pas assis. Que tu mets pas ton père derrière toi quand tu marches. Hein, et d'autres, regardez où est-ce qu'ils sont les salafs. Hein, le salaf, ouais, regardez où est-ce qu'ils sont les salafs dans le comportement. Hein? Et tu parles pas avant qu'ils parlent, etc. Regardez, subhanallah, comment on se comporte avec les parents. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça? Hein? Peut-être que le père il rentre et toi t'es couché, les pieds devant lui, etc. Hein? Subhanallah al-Adim. Ou peut-être qu'il te parle et tu lèves la main, ou là tu. Hein? Ou ceci ou cela, etc. Ouais, mais. Hein? D'ailleurs, le premier chapitre de l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari dans le comportement, c'est sur quoi? Il a rapporté la fameuse histoire d'Abu Huraira. Hein? Quand sa mère, elle disait des choses sur qui? Sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas musulman encore. Et Abu Huraira, il lui faisait mal. Il était en pleurant chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait du'a pour, hein? Pour elle, etc. Et quoi? Et quand il est revenu, il était en train de faire le ghusl, elle était convertie à l'islam. Regardez. Et pourtant, c'était pas un musulman. Et dans le Coran, sur le Coran, il est clair aussi. Il dit, ouais, mes parents, moi, je suis converti, mes parents, des kuffars. Taq, il l'a fait neuf, c'est clair. Alors, le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il a dit, regardez le verset, comment il est clair et fort. Et s'il te combat, وَإِنْ جَاهَدَاكَ, que tu m'associes à moi, c'est Allah qui parle, que tu m'associes quoi que ce soit, il te combat pour que tu associes à Allah. Hein? فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur oublie pas à eux deux. Mais quoi? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. يعني après avoir te dit ça, Allah il te fait rappeler يوم القيامة. إلي مرجعكم. À la fin, le verset comment il se termine? فأنبئكم بما كنتم تعملون. Regardez, les versets sont clairs, la guidance elle est claire pour celui qui cherche la guidance. Yani, si quelqu'un a encore ses parents vivants, qu'il va vite leur demander pardon, hein, avant que ce soit trop tard, et qu'ils se comportent bien avec eux, et s'ils sont morts, qu'ils fassent, hein, qu'est-ce qui est rapporté à la législation islamique qu'il peut faire pour eux, hein, en termes de doha, etc., etc. Cheikh, il dit dans le Sahih d'Imam Muslim par rapport aux parents, vous connaissez l'histoire, hein, de quelqu'un qui vivait au Yémen, vous connaissez son nom, et qui vivait à l'époque du prophète, il n'a jamais été voir le prophète, hein, Ouais al-Qarni, Jazakallahu khairan, Sahih Hassan. Wallah, écoutez, lisez son histoire, vous allez pleurer. Il vivait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et il n'a jamais rencontré le prophète Hassan parce qu'il s'occupait de sa mère. Imagine-toi, on ne peut pas s'imaginer. Tu vis à la même époque que le prophète Hassan Salam. Et ton Yémen, il est, hein? Il n'est pas très loin, le prophète Hassan Salam. Et tu n'as pas pu le voir. Pourquoi Bir l'Om, il s'occupait de sa mère? Mais regardez la récompense. Le prophète Hassan Salam a parlé de lui. Et il a dit à un sahaba, si vous voyez un homme qui s'appelle Ouais al-Qarni, hein, demandez-lui qu'il fasse dua pour vous parce que ça doit aller accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Hassan Salim est mort. Et Ouais al-Qarni plus tard, il est venu, il a fait le Hajj. Et Omar ibn Khattab, il était calife à l'époque. Et chaque époque, chaque groupe qui venait de Yémen, du Hajj, il demandait, est-ce que parmi vous il y a Ouais al-Qarni? Est-ce qu'il y a Ouais? Est-ce qu'il y a Ouais? Jusqu'au jour, ils ont dit, non, il est avec nous, il est là, il est en train de faire le wudu. Il a dit, c'est toi, Ouais? Hein? Il a dit, non, c'est moi. Il a dit, le prophète, ça nous a parlé de toi, hein, etc. Il lui a demandé de faire dua, etc. Et il a proposé de rester avec nous, on a besoin de rester avec nous ici. Et il a eu peur de la fitna. Et il n'est pas resté avec eux, il est parti jusqu'à la fin du hadith, etc. Hein? Quel est bir l'waridain? Quel niveau, hein? Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça te donne. Mais des fois, on va chercher à droite, à gauche, hein, des actions à faire. Hein, devant toi, à côté de toi. Et subhanallah, on entend que certains de nos frères et de nos sœurs musulmans et musulmanes, ils mettent leurs enfants, leurs parents maintenant dans des homes et des maisons de pension. Est-ce qu'on va suivre la voie des mouchriquins, des associateurs, hein? Et des kuffars, hein? Subhanallah, c'est pas connu ça dans nos sociétés. Les enfants ils restent avec les parents, quand les enfants grandissent, c'est les parents qui restent avec les enfants, ça, oh là là. Hein? Et c'est comme ça, c'est normal. Yani, Nasiha par rapport aux parents, c'est très très important. Il faudrait qu'on fasse une bonne règle sur les parents, tout ce qui touche les parents, les droits des parents, etc. Parce que si on ne connaît pas les droits, hein, ben comment est-ce qu'on veut s'en acquitter? On revient sur l'ilm, toujours la même chose. Hein? Wallahu al-musta'an. Donc on parlait de Tawhid al-Uluhiyya, on a dit la Tawhid Allah Jalla wa Ala fi uluhiyyatihi bi sarf jami' anwa' al-ibadat wa zahirati wa batina lahu ta'ala wahdahu la sharika lah. Et nous appelons les gens à l'unicité d'Allah dans sa divinité en lui vouant de manière exclusive tous les genres d'adoration intérieure et extérieure, yarhamukallah, sans ne rien lui associer. Et nous appelons à l'unicité d'Allah, ندعو لتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ça, ça nous aide un peu à rapporter, à résumer ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport avec l'asma wa sifat. Et nous appelons à l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, en affirmant tout ce qu'Allah le Très-Haut s'est attribué à lui-même, dans son livre et par les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'exemptons de tout ce dont il s'est lui-même exempté dans son livre, et par la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فَنُثْبِتُ مَا أَثْبَتَ وَنَنْفِي مَا نَفَى ونفهم المعنى ونثبته ونفوض الكيفية إلى الله تعالى وحده ونحذر من الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات ونحذر من كل من خالف في شيء من ذلك مما ابتدعه الناس وأحدثوه. Par rapport au tawassul, on n'a pas cité un troisième genre, hein. Et je suis parti sur les parents, etc., par moi, les actions, hein, etc., par rapport aux gens de la caverne, etc. Mais il y a un autre genre de tawassul qui est important aussi, et qui est légiféré, c'est quoi? C'est que tu demandes à quelqu'un de pieux, qui est vivant, présent, hein, et qui est capable, qu'il fasse dua pour toi. Il demande à qui donc lui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que tu vas pas à sa tombe, ou tu vas, hein, quand il est loin, ou que c'est pas t'entendre. Là, 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 là. Quelqu'un que tu connais, il est devant, hein, il est à côté de toi, etc. Hein, et quelqu'un de pieux, et tu vas, tu lui dis, fais dua pour moi. C'est quoi le délire de ça? C'est quand Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait que la sécheresse à l'époque? Ils ont été chez Al-Abbas. Hein? D'accord? Et il a demandé de faire quoi? De demander à Allah que la pluie descende sur eux. D'accord? Et ça, c'est un délire qui brise tous les arguments de ceux qui disent pas aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez à Medina al-Umra, al-Hajj, allez voir combien de gens ils sont à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils font même pas face à la Qibla, ils font face à la tombe, comme ça. Hein? Et certains, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le shirk al-akbar qui fait sortir de la religion. Hein? Le dalil que tout ça c'est faux, c'est que Omar ibn Khattab, si c'est autorisé, pourquoi il n'a pas touché à la tombe du prophète alayhi sallam? Il a demandé à l'Abbas qui était vivant. Kulna natawassalu bi nabiyyina. On demandait, hein, on cherchait à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de notre prophète. Hein? Et maintenant, nous te demandons, ou nous cherchons plutôt, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de l'Abbas. Et fais donc dua pour nous. Elle est pour que la pluie, hein, elle tombe. D'accord, faire attention. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Mais des choses, des notions fondamentales en islam. On parle de tawhid là, les frères. Hein? C'est une base, hein, qui doit être établie. C'est le fondement, c'est la base de tout. Donc, ici, nous appelons l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, en affirmant tout ce qu'Allah le Très-Haut s'est attribué à lui-même dans son livre, et par les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'exemptons de tout ce dont il s'est lui-même exempté dans son livre, et par la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous attribuons ce qu'il s'est attribué, et nous l'exemptons de ce dont il s'est exempté. Nous comprenons le sens et nous l'affirmons, et nous en laissons le comment à Allah le Très-Haut. D'accord? Comme, qu'est-ce qu'Allah le dit, le Coran a dit, Ar-Rahman ala l'arshi, Istawa. Qu'est-ce que nous dit? Ar-Rahman ala l'arsh, Istawa, c'est tout. Hein? Comment? Tu te tais. Allahu a'lam. Nous fawwid al-kayfiyata ila Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah nous a dit comment? Là, pourquoi tu veux commencer à rentrer dans le comment et qu'est-ce? Là. Hein? Allah nous a dit Istawa. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala Istawa ala l'arshihi Istawa an yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Comme il convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et nous mettons en garde, et ça c'est important ici, contre l'association, dans la seigneurie, et dans la divinité, et dans les noms et les attributs. Hein? Et nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse l'un de ces points parmi les choses que les gens ont inventées et ont innovées. Parce qu'il y a des gens qui ils font un tel bis. Nous savons beaucoup de gens, c'est des ah, mais ça pas. Ils voient le shirk du coin, l'imam du coin, ils leur disent non, c'est pas du shirk, ça va. Hein? Prends un coq rouge et tu vas à côté de la tombe et tu dis ceci, et c'est, subhanallah. Hein? Et nous, on va se taire sur ces gens-là. Hein? Ils appellent au shirk et nous, on va se taire sur ces gens-là. Le deuxième fondement, donc premier fondement c'était quoi? L'appel au tawhid et la mise en garde contre le shirk. Tawhid c'est quoi? L'unicité. Et le shirk c'est quoi? L'association. Deuxième fondement, c'est on appelle les gens au suivi du prophète alayhi salatu wassalam et on les met en garde contre quoi? L'innovation. Et le dîn il est comme ça. Vous avez l'appel au tawhid, la mise en garde contre ce contraire qui est le shirk. Et d'ailleurs, les ulama, ils disent une règle, ils disent l'amour bishay nahyun an diddihi. Le fait d'ordonner quelque chose, c'est l'interdiction de son contraire. On appelle les gens à la sunna, à s'accrocher à la sunna, et on les met en garde contre la bid'a. On appelle les gens à être sur ta'a, l'obéissance, et on les met en garde contre al-ma'asiyah, la désobéissance. Hein? وليس احد الامرين الا بالاخر فمن دعا الى الاتباع ولم يحذر من الابتداع فقد اساء وقصر وظلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث العرباض بن ساريه لا فطرنا حديث كي عظيم حديث très important et tous les hadiths sont importants لله الحمد et nous a d'abord le deuxième fondement c'est qu'on a dit il nous a appelé les gens à ce deuxième fondement qui est l'appel au suivi c'est-à-dire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la mise en garde contre l'innovation dans la religion et l'un des deux ne va pas sans l'autre celui donc qui appelle au suivi et ne met pas en garde contre l'innovation religieuse aura eu un manquement il aurait été en erreur il aurait été injuste ce que les gens ont dit ça ils disent non appel à la sunna mais une bid'a oui hein. Faut pas trop parler, faut pas mettre en garde. Chouya, hein? Ça divise les gens dans la mosquée, etc. Subhanallah. Prophète Azim dit Iyakum muhdathat al-umur, fa inna kulla muhdathat bid'a. Il disait ça tout le temps, nous on va se taire. Hein? Donc, Cheikh, il dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cela en évidence dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, quand il a agréé Radul Anou qui dit et c'est ce fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Et quand il a dit ça, je vous pose la question, etc. Quand il a dit ça, hein? Regardez le moment comme il est important, pas longtemps avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Et comment le sahabi qui a rapporté le hadith, comment il a décrit cette situation-là? C'était quand? Le discours d'adieu, hajjat al-wada', le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme un serment, et qu'est-ce qu'ils ont dit, sahaba? Ka'annaha mu'a. Mouadda, celui qui part. C'est comme si tu faisais on dit en français, tu fais tes adieux, tu pars. Hein? Et c'était Mouaddatan Baliratan. Elle a touché beaucoup de Sahaba. Varafat minha al-Uyun. Wajilat minha al-Qulu. C'est important de remettre le contexte. Les Sahaba avaient les larmes aux yeux. Radlan Ardahum. Ils avaient le cœur, il était rempli de frayeur. Hein? Le cœur, il a bougé. Il a frémi. Et il leur a dit quoi? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Et puis c'est pas tu. تَمَسَّكُوا بِهَا. وَعَضُّ عَلَيْهَا بِالْمَوَاجِدِ. Le c'est les malheurs. Hein? Le prophète, dans ce hadith, il a montré le mal à Da'a. Il a donné quoi? Ad-Dawa. Il a montré le mal, il a donné le remède. C'est aucun prophète qui n'a, sans qu'il le dise aux gens, hein, ce qui est bénéfique pour eux, et sans qu'il les mette en garde contre ce qui est mauvais pour eux. ولم يكتفي غير الشيخ كسيدي ولم يكتفي بالأمر بالاتباع وإنما أردفه بالتحذير من الابتداع فقال صلى الله عليه وسلم عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث عن عرباد بن سارية يلدي صلى الله عليه وسلم celui qui vivra donc parmi vous après moi verra beaucoup de divergences et on voit beaucoup de divergences de nos jours. C'est quoi le remède maintenant? Le mal il est là. Le mal il a été dit, il a été montré. C'est quoi le remède maintenant? Attachez-vous alors à ma voix. Et à la voix des califes bien guidés. On va s'arrêter un peu là-dessus, Inch'Allah. Attachez-vous-y et accrochez-vous-y fortement. Littéralement, mordez-y quoi? À pleine dent avec vos molaires. Quand tu tiens quelque chose avec tes molaires, tu lâches pas. Hein? Tu lâches pas. Ici un point dans la linguistique, dans la langue arabe, regardez les ulama comment ils comprennent les textes. Prophète Sahasan, qu'est-ce qu'il a dit? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha. Or il y a deux sunnats, il a dit ma sunna, la sunna des califiques. Mais après il a dit attachez-vous-y, yani une en arabe, si c'était deux, qu'est-ce qu'il aurait dit? Alayhima. Hein? تمسكوا بهما وعضوا عليهما. Mais il n'a pas dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a utilisé un pronom personnel qui indique le singulier. Féminin singulier. Ici en arabe, parce que c'est féminin. Hein? Singulier. Pourquoi? Dalil que la sunna des califs vient guider, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut bien comprendre ça. Rappelez ce qu'il a dit même Ahmed dans Usul Sunnah. Wa Usul Sunnah indana atamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pris de ce genre de texte. Et les fondements de la Sunnah sont chez nous. Le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La guidance elle est là. Et accrochez-vous-y fortement, c'est-à-dire, hein, mordez-y-vous avec vos molaires. Mordez-y avec vos molaires. Et il sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité a commandé de suivre. L'ordre, il est là. Et quand le prophète ça, nous ordonne quelque chose, c'est obligatoire ou pas? Non, sauf s'il y a une preuve qui montre que c'est mustahab. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. T'as pas le choix, mon frère. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. T'as pas le choix, khifila. T'as pas le choix, le prophète a ordonné quelque chose, t'as pas le choix. Et donc, il a commandé de suivre et il a ajouté à cela la mise en garde contre le fait d'innover dans la religion en disant et prenez garde, wa iyyakum, aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation religieuse et toute innovation religieuse est un égarement. Et ce soir, après le Maghrib, Inch'Allah, on va parler en détail de c'est quoi la bid'a. Parce qu'une voiture, c'est pas une bid'a dans le sens de la religion. C'est une bid'a dans le sens linguistique, non, hein, parce que c'est nouveau. On va pas dire non, on roule pas en voiture, khlas. Il y a des gens, il y a un groupe qui était comme ça, vous savez ça. Hein, en Arabie Saoudite. Hein, non, un groupe comme ça de Moutachet Didin. Hein, et pas d'électricité, pas de frigo, non, pas de voiture, qu'à la bid'a. Là, ça c'est le rouleau, ça c'est l'exagération. Ça c'est le umur mubaha, ça. C'est quelque chose qu'Allah nous a rendu permis. Pourquoi? Pour nous faciliter la vie. Ça ne rentre pas dans l'adoration. C'est pour ça qu'une des meilleures définitions de l'bid'a, c'est celle qu'il a donnée lui-même, Shatibi, rahimahullah, dans l'I'tisam. Retournez à l'I'tisam, Shatibi, rahimahullah, premier volume, vous allez trouver une très très belle définition. C'est pour ça qu'il a dit, Mukhtara'atun fi d-din, il a rajouté fi d-din, Shatibi. Pour bien que, c'est un qaid ihtiraz, comme disent les ulama, hein, pour que ce qui n'est pas de la religion, ça sorte de sa définition. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas limité à commander de suivre, mais il a ajouté à cela la mise en garde contre le fait d'innover dans la religion en disant « Et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement. » Et on va le voir ça plus tard dans le dars de Cheikh Fouzan tout à l'heure, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? « Kul, fahoulana, kul muhdadatin bid'a, wa kul bid'atin, wa kul bid'atin dalala. » Il y en a, ceux qui aiment bien réfléchir de trop ou de travers, ils disent non, mais on va voir ça ce soir, Inch'Allah. Et le bid'a hasana.
Il y a des bid'a comme ça et des bid'a comme ça. C'est pas tout qui est mauvais. Moi, le professeur il a dit tout, kol, tout, dans la langue arabe, tout fait d'une umum. Kol, hein, mahdat une bid'a. Oh, kol, bid'a. Toi, tu vas me dire non, il y a une bonne bid'a. Hein? Et encore une fois, il chante, il y a un l'i'tisan. Il a fait une réfutation de cette choubha-là magnifique. Il rentre dans leur argument, et il a réfuté ça en détail. Pour montrer que ça ne tient pas la route. Hein? D'accord? Et donc, chéri, il continue en disant: فلا بد من الامر بالاتباع باتباع السنه ولا بد من التحذير من البدعه وعند الامر بالاتباع لا بد من التحذير من الابتداع ولا بد من التحذير من البدعه واهلها وقد بين صلى الله عليه وسلم ان المبتدع لا يقبل منه عمل صالح كما في حديث الخوارج في الصحيحين بعد ان ذكر قراءتهم وعبادتهم العظيمه قال صلى الله عليه وسلم يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرميه وكذا بين ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث مسلم الذي ذكر فيه ابن عمر حال القدرية وأعلمهم أنه لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Il dit: et lorsqu'on ordonne le suivi de la sunna, il faut absolument mettre en garde contre l'effet d'innover dans la religion. Et il faut absolument mettre en garde contre l'innovation religieuse et ses gens. Comme Cheikh Ahmed Bezmoun, Cheikh Ahmed bin Omar bin Salim Bezmoun, parmi les chefs de Mecca contemporains, hein? Cheikh Najmi Rahimallah, l'ancien mufti du sud de l'Arabie Saoudite, Rahmatullah Ali, il a dit de lui qu'il fait partie des ulama, hein? Il appelle Al-Lama, le très savant Cheikh Ahmed Bezmoun. Il a dit: il y a des gens, il te dit qu'il faut mettre en garde sur les bid'a, mais pas sur les gens. Il a dit: c'est comme si la bid'a, elle volait toute seule, hein? Ou elle marchait toute seule. Non, la bid'a, il y a des gens qui font les bid'a, qui appellent à ces bid'a-là. Hein? Et regardez la preuve ici, elle est là. Il dit: on engage sur l'innovation et ses gens. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en évidence que l'innovateur dans la religion n'a aucune action vertueuse n'est acceptée de lui. Alors ici, il ne faut pas comprendre ça de manière générale. Il dira: bah, khalas, c'est-à-dire, Allah n'accepte rien de lui. Vous voyez, hein, traducteur. Imaginez-moi, je vais dans une conférence.
Tu dis ça.
Hein, ça, oh là là. Hein? Et je vous dis: le prophète l'a mis en évidence que l'innovateur dans la religion, aucune action vertueuse n'est acceptée de lui, comme cela a été rapporté dans le hadith, dans le khawarij, je continue, je dis rien. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'Allah n'accepte pas les actions des innovateurs. C'est correct de comprendre ça. Vous voyez, il ne faut pas prendre de n'importe qui. Hein? Il ne faut pas prendre n'importe qui. J'ai fait note de bas de page pour vous, parce que je sais que ce genre de... Le chir, lui, il a parlé, mais il sait ce qu'il veut dire. D'accord? Mais ça risque d'être mal compris. Donc j'ai été obligé de prendre l'explication d'un autre alim, Cheikh Rabia Ibn Adil Madkhali, qui dit dans son explication de Sharh Sunan l'imam Barbahari, que je vais faire demain, mais c'est lui Cheikh Najmi à Saint-Marcelin, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Ouais. Charles. Volume 2, page 978. Nous ne jugeons pas que les actions d'un innovateur qui prie et jeûne sont toutes nulles et vaines s'il prie conformément à la sunna. D'accord? Et jeûne selon la sunna, et fait le pèlerinage selon la sunna. Ces actions qu'il fait selon la sunna, nous ne disons pas qu'elles sont nulles et vaines, car elles annulent toutes les actions que l'association à Allah. C'est-à-dire que c'est un moubtadi, il fait une action. C'est un moubtadi, il a une bid'a. Hein? Il est sur la bid'a. Ou alors il est pris, par exemple, salat d'or sur la sunna. Tu vas dire quoi? Même salat d'or, elle n'est pas acceptée de lui. C'est juste de dire ça. Là. Ou bien il a une bid'a. D'accord? C'est un moubtadi, c'est un innovateur dans la religion. Ou alors il va faire le hajj. Le hajj, il est fait selon la sunna. Tu veux dire que non, il n'a pas de hajj. Tu ne peux pas dire ça. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. D'accord? Parce que qu'est-ce qui annule toutes les actions en islam? C'est quoi? Le shirk al-akbar, le kufr al-akbar. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. D'accord? وَلَا إِنْ أَشْرَكْتْ لَيْحْبَطَنَا عَمَلُ. Les versets sont clairs. Mais ça, c'est quoi? C'est le akbar, al-muhbit. Celui qui yuhbitu l'a'mal kullaha. Ou le kufr al-akbar. Le akbar, le kufr al-akbar. La grande association, l'association majeure et la mécréance majeure. Ou l'a'adhu billah. Ça veut dire, khalas, la personne est sortie de l'islam. Il n'est plus musulman.
Hein, c'est un murtad. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est important de rapporter sur des tafsils ici, qu'on comprenne pas mal les choses. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est le verset que j'avais cité avant, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Hein? L'haba al-manfour, c'est la poussière éparpillée. C'est comme ça que leurs actions sont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont hein, commis shirk akbar ou le kufr akbar. Surat al-Furqan, verset 23. Un autre savant, Cheikh Abdel Mohsen Abdad, vous connaissez ? C'est un savant qui enseigne aujourd'hui encore à Mizid Nabawi. Cheikh Abdel Mohsen Abdad, le grand muhaddith, il dit dans son explication de Sunan Ibn Majah, c'est la cassette numéro 7, maintenant c'est sûrement un audio, les gens de l'innovation sont de deux types. On est d'accord ? Vous avez ce qu'on appelle le bid'a al-mukaffira, le bid'a quoi ? Al-mufassiqa. Vous avez quelqu'un qui innove dans la religion, mais sa bid'a, elle fait sortir de l'islam. Vous avez quelqu'un qui innove dans la religion, mais sa bid'a, elle ne fait pas sortir de l'islam. D'accord ? Les choses ne sont pas toutes au même degré. Hein ? Et donc, Cheikh, il dit ça. Il dit, ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l'islam, et ceux-là, leurs actions ne sont pas considérées et sont nulles et vaines, comme l'a dit Cheikh avant. Et ceux qui ont une innovation qui n'arrive pas au degré de mécréance, et donc ne les fait pas sortir de l'islam. Et ceux-là, leurs désobéissances sont contre eux, et les actes d'obéissance sont pour eux. Hmm? C'est un peu trop long, ou... non, ça va hmm? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, dont 72 ans en enfer. Mais attention, qu'est-ce que vous comprenez du hadith? Il dit, ils sont musulmans et menacés de l'enfer. Vous voyez, les textes, les ulama, on a ce qu'on appelle. Il y a des textes de promesse, où Allah promet quelque chose, et des textes de menace. Et les Khawaris, ils n'ont pas compris les textes de menace comme il faut. Hein? Comme les Murji'as, ils n'ont pas compris les textes de promesse comme il faut. D'accord ? Hmm? Et Cheikh, il dit, et ils sont musulmans et menacés de l'enfer, et nous ne disons pas que leurs actions ne sont pas acceptées comme celles des mécréants. Ceux qui ont des innovations qui ne les font pas sortir de l'islam sont des musulmans. Et à cause de leurs péchés et de leurs innovations, ils sont menacés dans l'enfer. Hein? Vous voyez, certains, on a même déjà vu certains qui parlent à des non-musulmans ou, hein, ou même à des musulmans qui faisaient, on dit, ah, toi, t'es fait nar. Hein? Hein? Attention. L'aqidah d'Ahl al-Sunnah, c'est la naqta' li ahadin binarin ou jannah. Hein? Sauf si on a quoi? Un dalil. Par exemple, Pharaon, il est fait nar ou pas? Oui, bien sûr. Comment on le sait? Ah, c'est le Coran, ça ou là? La Sunna est claire. Maintenant, quelqu'un où il n'y a pas un texte de la révélation sur lui, est-ce que tu peux dire il est fait nar? Est-ce que tu peux dire il est fait le jannah? Tu ne peux pas dire ça. C'est ça, l'imam Ahmed, en son sunnah, il a été précis, il a dit Narjou lil muhsin. On ne peut pas dire que quelqu'un il est fait le nar ou le jannah s'il n'y a pas un dalil clair. Mais on a peur pour celui qui est un malfaisant et on espère pour celui qui est bienfaisant. Comme aussi quelqu'un qui est pieux, etc. Il dira c'est l'ikhlas, il est fait le jannah. Non, sauf si tu as dalil. Abu Bakr il est où? Omar, Othman, Ali, hein? Et d'autres parmi eux, et Bilal. Et d'autres parmi elles, comme on les appelle l'Asr al-Mubashirin bil Jannah. Le prophète s'en fait, leur annonce le Jannah. Qu'est-ce que nous va dire? S'en fait le Jannah. Le Rasul s'en est où? Fait le Jannah. L'Anbiya. Hein? Où? Fait le Jannah. D'accord? Donc nous on dit parce que c'est notre aqidah, c'est dans le Coran, dans la Sunna. D'accord? C'est important de bien comprendre ça. Donc il dit. Ils sont menacés de l'enfer. Ils seront châtiés. Si Allah veut les châtier, je vous pose une question avant de dire ça. Quelqu'un, écoutez bien, quelqu'un qui est un croyant, d'accord, un musulman, et mu'min, mais il a fait un grand péché. Je ne parle pas de shirk akbar et de kufr akbar. Hein? Un grand péché. Exemple quoi? Zina, wal'adhu billah. Exemple quoi? Sharb al-khamr, par exemple. C'est des exemples. Exemple, on a parlé ça tout à l'heure.
Et il meurt, mais il n'a pas fait tawba. Il ne s'est pas repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Barakallahu fik. Ah, c'est ça la croyance correcte. Il est quoi sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne par miséricorde, et s'il veut, le châtie par justice. Hein? Et c'est ça la position correcte. D'accord? Hein? Et s'il est châtié maintenant, est-ce qu'il va rester éternellement en enfer? Hein? Je vous pose la question. C'est possible qu'il y ait un?
Non,
il ne reste pas. Pourquoi? Parce que c'est un croyant. Il est mort sur le tawhid. Donc, à un moment ou à un autre, quand il aura fini son châtiment, il va aller où? Al-Jannah. D'où l'importance de mourir sur le tawhid. Qu'Allah nous donne la mort sur le tawhid, on ne sait pas c'est quoi notre fin. On est là, on pense qu'on est sur le khir, etc. On ne sait pas sur quoi on va mourir. Ça, toujours demander la bonne fin. Toujours demander la bonne fin. Hein? Et de mourir dans une bonne condition. D'où l'importance aussi de toujours être dans une bonne condition. Hein, ça, elle est là. Si un jour tu te laisses aller, l'aïdou billah, et shaitan, il te trompe au point que tu es en train de faire zina. Imagine que tu meurs en faisant zina. Imagine un jour tu te laisses aller et tu voles quelque chose et tu meurs en ayant volé quelque chose. C'est grave ou pas? Hein? C'est l'importance d'essayer d'être toujours dans quoi? Dans At-ta'at. Toujours dans quoi? Dans At-ta'at. Que si la mort elle te vient, elle te prend dans une bonne situation, pas. Hein? Que tu meurs par exemple en soujoud. Hein? Ou que tu meurs par exemple en faisant quoi? Al-Hajj. En ihram. Hein? Notre frère Abu Talha qui enseigne chez nous à la mosquée, il est mort brûlé en ihram, lui, sa femme. Ils l'ont trouvé comme ça. Hein? Oh, et encore une fois, hein, on a dit quoi? Narjoulahoul khair.
Amin.
Demande Allah Azzi qui lui accorde le firdaus la'ala. Vous rappelez ce qu'on a dit? Hein? C'est pas parce que c'est notre ami, quelqu'un qui était proche de moi, de proche de nous, qu'on va dire, non, l'aqida, c'est l'aqida. Hein? Et c'est ce que lui l'enseignait de toute façon. Hein? Regardez, alhamdoulilah, c'est un signe de khair. C'est quoi, quelqu'un, il meurt en état d'ihram? Il meurt en état d'ibada, il meurt en priant. Hein? Il meurt fisabilillah. Hein? D'accord? Donc c'est important d'être toujours dans quoi? Dans At-Ta'at. Par rapport à ce point ici, le frère, il est correct dans ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il dit ici, ils seront châtiés si Allah veut les châtier, s'il leur pardonne, ils ne seront pas châtiés, et même s'ils sont châtiés, ils ne resteront pas éternellement en enfer, comme les mécréants, mais finiront au paradis. Quant au repentir, ils ne se repentent pas, et vous avez compris maintenant pourquoi certaines paroles disent que, hein, que comme il y a un hadith, par rapport à, on va voir après par rapport à ça, Inch'Allah, c'est que le Mubtadi, il n'a pas de tawbah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas faire tawbah. C'est ça que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en général, ils ne font pas tawbah. Pourquoi? Maintenant, vous parlez à un jeune. On parle jeune ou moins jeune? Je dis toujours jeune, mais en vérité, c'est qu'ils ont un bon don, les jeunes. Tu vois, ils sont toujours, hein? Sur les jeunes. Hein? Parle à quelqu'un, en classe. Parle à quelqu'un, hein? Et quelqu'un, il par exemple, vous l'attrapez, il est en train de boire l'alcool. Il croyait qu'il était tout seul, mais, hein? Voilà, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu fais, Kada? Il va dire, non, c'est halal, qu'est-ce que j'ai rien fait de mal. Hein, il va te dire ça. Non, je ne dois pas faire tawbah. Il va dire, astaghfirullah, c'est pas bien, j'étais faible, kada, etc. Mais t'as dit, va dire, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien. Il va dire, kaif, ada din Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Mubtadi, en général, il ne revient pas, parce qu'il fait cela. On croit qu'il y a taqarrabu ila Allah bidalik. Vous voyez le danger de la bid'a? Vous voyez le danger? Il y a des gens qui veulent le khir. Allah, je ne savais pas, jazakallah khiran. Allah, shukran que tu m'as dit. Ahsallah alik, je te remercie beaucoup. Ils vont même plus t'aimer, plus te respecter. Tu leur dis, ah, fais pas ça, c'est une bid'a. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment le khir. Ils aiment que tu leur fasses nasiha, etc. Et moi, je parle du mubtadi'. Le mubtadi', c'est celui qui sait que c'est sur la bid'a, mais il reste. Ana dawa kabar, il s'obstine, hein? Il est orgueilleux, reste sur sa bid'a. Hada, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, hein? Comment on va faire Tawba? Il croit que c'est, hein, c'est ce que le chef dit ici. Quand on repentir, ils ne se repentent pas les innovateurs, car ils croient que ce qu'ils font est la vérité. Et donc restent sur leurs innovations jusqu'à ce qu'ils meurent sans être repentis. Et que leur innovation ne les fait pas sortir de l'islam. Leur affaire revient à Allah s'il veut les châtier et s'il veut, il leur pardonne. On en a fini ce point-là parce que je pense que c'est important de préciser ça pour pas que ce soit mal compris. Comme cela a été rapporté, je rappelle la phrase, qu'il ne va être dans la religion, aucune action vertueuse n'est acceptée de lui. Maintenant, vous avez compris ce que ça veut dire. Comme cela a été rapporté dans le hadith sur les khawarij qui ont été dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim. Après qu'il ait décrit leur lecture du Coran et leur immense adoration, le prophète Sassim il a dit, ils sortent de la religion comme la flèche sort de l'arc. Le prophète Sassim il a dit que le khawarij, ils sortent de la religion comme sort la flèche de l'arc, ils ne reviennent pas. Certains ulama, ils ont dit que donc le khawarij sont kuffar. Faut savoir ça, Cheikh Melbaz, rahmatullah, par rapport à ça. Mais la vie correcte, c'est quoi? Hein? C'est qu'ils ne sont pas des kuffars. Hein? Qu'ils ne sont pas des kuffars. D'accord? Hein? Donc, mais c'est pour montrer qu'il y a certains ulama qui l'ont dit, pourquoi? Par rapport au texte. Hein? Qui sort de la religion, etc. Yamurukun min ad-din, comme yamurukun sahmun min ar-ramiya, etc. Hein? Vous voyez le danger de faire partie des khawarij. Et de même, Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, quand les agrétudes deux, a clarifié cela comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique, dans lequel Ibn Omar a cité la situation des Qadariya. On a dit c'est qui le Qadariya tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent le Qadariya? La Qadar, l'Amro, Onofon, yani El Musta'naf. D'accord? Il n'y a pas de Qadar, c'est des négations, il n'y a pas de Qadar. Il n'y a pas de Qadar. Ils sont parus quand? Regardez quand? Abdullah ibn Omar, on lui a parlé de Qadariya, qui était à Bassora. Vous connaissez Bassora, si vous, madame Bassora? Ou Bassora? En Irak. D'accord? Et l'histoire, c'est une histoire très connue. Vous connaissez sûrement le hadith de Jibril, alayhi salam. Où il explique quoi? L'islam, l'iman, l'ihsan. Hadith très connu dans le Sahih Muslim. Pourquoi c'est Abdullah ibn Omar qui a rapporté ce hadith? Pourquoi Abdullah ibn Omar il a rapporté le hadith de Jibril alayhi salam? On explique l'islam, l'iman et l'ihsan. Parce que dans la définition de l'iman, il y a les six piliers, c'est quoi? Le dernier, c'est un tu'mina bil qadari, khairihi, wa sharri. Que tu crois la présentation, son bien, son mal. Mais pourquoi il a rapporté ça? En réfutation de qadariya. Après, je dis, ah, faut pas réfuter, faut pas réfuter. Pourquoi il a réfuté? Parce qu'il y a deux parmi les tabi'un qui sont venus. Jusqu'à au Hajj ou à Umrah, jusqu'à la Kaaba, en espérant rencontrer un sahabi pour lui poser la question sur le Qadariya qui sont apparus chez eux. C'est qui? Yahya ibn Ma'mar et Abdurrahman al-Himyari. Ils ont dit, on espérait voir un compagnon, il reste ton fils, mais Allah, qui ils ont rencontré? Abdurrahman al-Himyari. Grand compagnon, parmi les ulama des compagnons. Et il a dit à l'autre, je pensais que l'autre allait me laisser parler moi. Il y en a un qui s'est mis à sa droite, un qui s'est mis à sa gauche. Et ils ont dit, oh bon Abdurrahman, il a dit, il y a des gens qui sont apparus chez nous. Et regardez comment il les a décrits. Les taqaffaroun al-ilm. Ils prennent beaucoup d'ilm. Mais ils ne sont pas laissés avoir par ça. Maintenant, quelqu'un qui prend beaucoup d'ilm, il parle beaucoup, hadith, Bukhari, musulman, il connaît tout par cœur. Masha'Allah. Hein? Même si c'est le plus grand des égarés. Ils lui ont dit, il y a des gens qui sont venus, qui sont apparus chez nous à Basra, et ils disent qu'il n'y a pas de Qadar. Et que l'Amr Onuf, que Allah a dit, c'est les choses qu'après qu'elles apparaissent. Il n'y a pas de Qadar. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Première chose qu'il a faite, il signe son T2. Il est allé, on va le voir ça dans un instant. Fais-leur savoir que je suis innocent d'eux, qu'ils sont innocents de moi. Et ça, Cheikh Al-Mashi Al-Abbal, il dit que c'est comme ça que le sunni doit être. Il est tabarra min al-bid'a ou min ahliha. Directement. Tu désavoues de la bid'a et des gens de la bid'a, directement. Bref, par rapport au Qadariya, en disant, et fais-leur savoir que si l'un d'entre eux venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne de Houd. Vous avez vu la montagne de Houd ou pas? Quand vous avez été en Saoudie, peut-être certains d'entre vous. La Kibira ou la Kibirash? Hein? Elle est immense la montagne de Houd. S'il donnait la main l'équivalent d'un montagne d'Ouhud en or, cela ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croit en la prédestination. Pourquoi? Parce que c'est un des piliers de la foi, de l'iman. Et donc, chaque année, son action virtueuse a donc été rejetée à raison du fait qu'il a innové dans la religion d'Allah, le Très-Haut, puis il dit, on a vu ce que ça voulait dire, hein? Et par celui par lequel Abdullah ibn Omar jure, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent d'un montagne de Houd en or et venait à le donner en aumône, cela ne serait pas accepté de lui tant qu'il ne croit pas à la prédestination. L'innovateur, donc le shir, dit l'action virtueuse n'est pas acceptée de lui, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en évidence, et comme cela a été indiqué par Ibn Omar dans le hadith sur le qadarit. Et l'innovateur dans la religion n'a pas de repentir. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Vous avez compris ce que ça veut dire? Je vous rapporte une parole d'un autre savant. Shir Jamal ibn Furah al-Harith, un élève de Shir al-Fawzan, il dit dans l'âme d'Ur Mansour, celui qui comprend que le repentir n'est pas du tout accepté de l'innovateur, c'est une compréhension incorrecte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovateur ne commet cette innovation que parce qu'il cherche à se rapprocher d'Allah par cela, comme il le prétend. Comment pourrait-il se repentir d'une action qu'il considère vertueuse? Contrairement à celui qui commet des péchés, qui lorsqu'il commet une désobéissance ou une perversité, regrette ce qu'il a fait. Celui qui boit d'alcool, il est musulman. Et il boit d'alcool en même temps, qu'est-ce qu'il sent? Il sait, hein, il sait que c'est pas bien ce qu'il fait. Contrairement à Moubtadi'a. Cheikh Zayd ibn Adil Madkhali, il dit dans son livre, je vous conseille ce livre-là pour les arabophones, Al-Ajub al-Athariya an al-Masail al-Manhajiya. C'est un livre qui est récent. Page 213. Le sens de cela est que celui qui est sur une innovation religieuse, en général, ne se repent pas car il considère ce qu'il fait comme un acte d'adoration et une religion. Hadith. عن الطبراني في الأوسط والصحيح الألباني في سلسلة صحيحة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. Donc il dit le Tabarani a rapporté dans l'Awsat, ça vaut du hadith, et Cheikh l'Albani l'a authentifié dans Sisla Tahad al-Sahiha, d'après Anas, qu'elle a l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a voilé, il a mis un voile, il a voilé le repentir à chaque détenteur d'une innovation religieuse. Il y en a compris, hein? Parce que ce hadith, il est authentique, il a été jugé authentique par Cheikh l'Albani. Donc, Cheikh, il conclut ce deuxième fondement en disant فَنَدْعُ النَّاسِ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنُحَذِّرُ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَدْعُ النَّاسِ إِلَى اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُحَذِّرُ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَنُحَذِّرُ مِنَ الْابْتِدَاعِ فِي الدِّينِ لَا نَكْتَفِي بِالْإِثْبَاتِ دُونَ النَّفِي وَلَا نَأْتِي بِالنَّفِي دُونَ الْإِثْبَاتِ بَلْ نَأْتِي بِالتَّأْصِيلِ وَالتَّحْذِيرِ نَعَمْ فالإثبات والنفي دين المرسلين وما دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فهي نفي وإثبات. Nous appelons donc les gens à l'unicité d'Allah, le Seigneur des mondes, et nous les mettons en garde contre l'association à Allah, le Seigneur des mondes, et nous appelons les gens à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous les mettons en garde contre les innovations religieuses et les innovateurs dans la religion, et nous les mettons en garde contre le fait d'innover dans la religion. Et nous ne nous limitons pas à l'affirmation sans la négation. Et nous ne rapportons pas la négation sans l'affirmation. Mais de plus, nous établissons les fondements et en même temps nous mettons en garde. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que beaucoup de gens actuellement qui se revendiquent de la sunna et disent non, apprends aux gens, fais le ta'sil, mais pas le tahdir. Rapporte aux gens les fondements de la religion, c'est bien ce que tu fais, mais pas en garde contre les gens et le faux. Ça c'est faux ça. On a vu pourquoi maintenant. Hein? C'est faux ça. On enseigne le hadir. On apprend genre le fondement et on met en garde contre le faux et les gens du faux. D'accord? L'affirmation et la négation sont donc la religion des envoyés et c'est ce qui est indiqué par la bonne parole. Nul n'est en droit d'être adoré, dans la traduction du sens est, nul n'est en droit d'être adoré par Allah car c'est une négation et une affirmation. Je ne sais pas comment on va faire, j'avais dit qu'on allait finir cette risala, on a la moitié. On a fait trois cours, on a la moitié. Je ne sais pas si vous voulez au moins faire un fondement en plus ou pas, mais il est 8h presque 20 et on reprend à 17h. Alhamdulillah, khalas. J'ai encore l'heure d'Angleterre, moi. Hein? Faut avoir un peu d'eau. Hmm? Vous voulez qu'on s'arrête à 5 minutes, 10 minutes? Chouya, tout le monde est allé comme chouya.
Continuez un peu, comme ça les frères vont aller manger tout à l'heure.
De quoi? Non, je vais faire l'autre que je leur avais dit. On verra, je vais faire. Sinon, on peut faire un cours le matin ici.
Si tu veux,
je vais pas revenir de loin.
Si on veut donner les six pour dormir.
على كل حال وندعو الناس إلى هذا الأصل الثالث ندعو من الحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك ونؤمن بأن الحكم بما أنزل الله فرض على كل مسلم بحسبه من حاكم ومحكوم في العقيدة قال ربنا جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فهذا الذي لأجله خلق الله الخلق وهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه فالحكم بما أنزل الله ومعنى لا إله إلا الله وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله وفي العبادة قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي المعاملات قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وفي الأخلاق والسلوك قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال جل وعلا واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فالحكم بما أنزل الله شامل لكل صور الحياة من ظاهر وباطن ومن حركة وسكون فلابد من الدعوة إلى إقامة حكم الله في العقيدة حتى تتطهر الأرض من الشرك والبدعة ولا إقامة حكم الله في العبادة حتى تطهر العبادات من الإحداث والأهواء ولا إقامة حكم الله في المعاملات حتى تقام على أمر الله وحده لا أمر خلقه ولابد من الدعوة إلى الأخلاق التي أرساها الإسلام وطبقها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الحكم ما أنزل الله على هذه الصورة الصحيحة أشمل وأعم وأصح وأتم مما يدعو إليه القوم ومما يتشدقون به يحصرون ذلك فيما يتعلق بالمعاملات والحاكم والأمر أوسع من ذلك فما من حركة ولا سكنة ولا من أمر باطن ولا ظاهر إلا ولله فيه حكم ولابد من العمل بما أمر الله رب العالمين به في كل ذلك على سبيل العموم والشمول. Ce troisième fondement de notre da'wah, nous appelons les gens à ce troisième fondement, nous les appelons au jugement par la loi d'Allah, dans la croyance, et dans l'adoration, et dans les transactions, et dans les comportements et la moralité. Et nous croyons que le jugement par Allah, par la loi d'Allah, est une obligation qui incombe à tout musulman, chacun selon qu'il soit un gouverneur ou un gouverné, dans la croyance. Et que Cheikh va souligner ça, beaucoup de gens disent « Al-Hukm Ma'anzallah, Al-Hukm Ma'anzallah » ne parlent pas du Hukm Ma'anzallah dans la croyance. Ils ne parlent pas du Hukm Ma'anzallah dans l'adoration. Ils parlent juste dans quoi? Al-Mu'amalat, Al-Suluk. Là, dans la croyance en premier. Alors le truc a dit, c'est dans la traduction du sens est « Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de l'adorer que lui. » Surat Yusuf, verset 40. Et c'est cela la raison pour laquelle Allah a créé la création, et c'est cela le sens de « La ilaha illallah ». Nul n'est adoré avec vérité à part Allah. Donc le jugement par la loi d'Allah, c'est le sens de la ilaha illallah. Et qu'aucune adoration ne soit vouée à autre qu'Allah. Et dans l'adoration, comment? Alors le trio dit, c'est dans la traduction du sens est, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et dans les transactions, alors le trio dit, c'est dans la traduction du sens est, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc. Surat al-Jafiyah, verset 18. Et dans le comportement et la moralité, c'est-à-dire l'islam, il est quoi? Il est complet. Hein? Alors le trio dit, selon la traduction du sens est, en effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre. Surat al-Ahzab, verset 21. Et alors le trio a dit, décrivant son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction du sens est, et tu es certes d'une moralité éminente. Surat al-Qalam, verset 4. Le jugement par la loi d'Allah comprend tous les aspects de la vie, apparents et cachés, mouvement et immobilité. Il est donc obligatoire d'appeler à appliquer la loi d'Allah dans la croyance afin que la terre soit purifiée de toute association à Allah et de toute innovation religieuse. Évidemment, cet appel-là, il se fait en fonction de ce que les ulama ils disent. Hein? D'accord? Il est appliqué, hein, cette loi d'Allah, par les gens qui sont capables de l'appliquer. Et chacun l'applique à son niveau. Hein? En fonction de ce que lui doit appliquer pour lui-même d'abord. La terre doit être purifiée de toute association à Allah et de toute innovation religieuse et aussi appliquer la loi d'Allah dans les adorations afin que les adorations soient purifiées des innovations religieuses. Les gens disent Al-Hukm Lillah. Tu lui pardonnes une faute dans l'aqidah, il ne veut pas revenir. Tu lui montres une bid'a dans son adoration, il ne veut pas revenir. Il ne veut pas se soumettre à la loi d'Allah. Hein?
À part pour les gouverneurs, alors là, hein, on y va. Là, c'est pas comme ça. Hein? Sans purifier des innovations et des passions. Et aussi appliquer la loi d'Allah dans les transactions afin qu'elles soient tenues uniquement sur l'ordre d'Allah et pas l'ordre de ses créatures. Et il faut absolument appeler au comportement que l'islam a affermi et que le noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appliqué. Et l'appel au jugement par la loi d'Allah selon cette manière correcte est plus général et plus compréhensif que ce à quoi l'appellent certains gens. Et que ce dont ils se vantent. Ils limitent cet appel à juger la loi d'Allah, par la loi d'Allah à ce qui touche aux transactions et aux gouverneurs. L'affaire est plus générale que cela. Car il n'y a ni mouvement ni mobilité. Même la manière dont toi tu te comportes envers le gouverneur, c'est la loi d'Allah. Allah t'a dit c'est un gouverneur musulman. Même si c'est un fasiq, même si c'est un fajr, même si yadlim al-nas, tajibu ta'atuhu wa sam'uhu. Hein? Ya ayyuha alladhina amanu atti'u Allah wa ar-rasul wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum. Hey, les gens n'aiment pas qu'on dise ça, c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Ah, Ismail, le professeur dans le hadith musulman, dans le imam musulman. Dans le sahih de l'imam musulman, c'est quoi? Isma wa ati wa indaraba dhaharak wa akhada malak wa in ta'ammara alaykum abdun habashi. Même si c'est un esclave abyssinien, hein, qui est gouverneur, tu l'oublies. Même s'il te frappe ton dos et prend ton argent, mais non, on frappe même pas l'argent, on veut des augmentations, ok? Hein? C'est ça que ça nous fait. On a vu dans les pays musulmans quoi ça a appelé. Les koufans sont malins. Ils appellent comment ça le printemps? Ah, regardez le beau nom, le printemps, les fleurs. C'est un printemps, ça. Combien de gens musulmans? Combien de gens sont morts? Est-ce que ça a amené à la réforme dans les pays musulmans? Est-ce que ça a amélioré quoi que ce soit? Rien, au contraire. En Égypte, les gens se plaignent. Il n'y a plus de sécurité. Les femmes, elles sont agressées dans la rue. Hein? Les gens, ils commencent à faire la police eux-mêmes, etc. C'est pour ça que les anciens, ils disaient, les anciens imams, ils disaient à la communauté, restez 100 ans, hein, sous un hakim qui est valim, c'est mieux qu'une nuit sans hakim. Hein? Pourquoi, hein? Ouais, sahih, Ibn Taymiyyah, hein, c'est parler de lui. Pourquoi? La raison, elle est claire. Regardez, dans tous les pays musulmans, ils ont, hein, les gens, ils ont poussé. Attention, c'est étudié tout ça. C'est étudié tout ça. Et vous voyez, c'est qui? C'est pas les ulama sharia qui sont là dans la rue. C'est qui? C'est les juhal, hein? C'est les gens qui connaissent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils se font chauffer, etc. Il y a des événements qui se passent qui sont très porteurs pour les sentiments des gens. Et quoi? Hein? Ça chauffe directement. Et vous avez vu comment ça prend vite? Ce qui prouve que c'est préparé tout ça. Hum? Regardez la Libye. Regardez la Tunisie. Regardez les tentatives en Algérie. Regardez les tentatives au Maroc. Alhamdulillah, ça n'a pas pris. Hein? Regardez tous les pays. Regardez en Irak. Hein? Est-ce que les Irakiens sont plus heureux maintenant? Là, abadan. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de dôme avant. Hein? Les gens étaient torturés avant. Ils étaient massacrés, etc. Est-ce que maintenant c'est mieux qu'avant? Non. Pourquoi? Parce que hein, la charia, elle a établi des règles. Le hakim muslim, il est interdit de se rebeller contre lui par la parole ou l'action. Interdit. Même le hakim qui est kafir, hein, alladhi indakum fihi min Allahi burhan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux te rebeller qu'avec des conditions très strictes émises par les ulama. C'est les ulama qui décrètent quand et quand. Or, aucun alim qui a parlé maintenant. Ils ont tous dit non, il ne faut pas faire le khourouj. C'est pas, il n'y a pas un khourouj shara'i. Hein? Et regardez le fait de ne pas écouter les ulama. Maintenant, en Égypte, les chiites, ils ont pignon sur rue. Vous savez ça ou pas? Vous savez ça ou pas? Il y a des écoles qui ouvrent depuis des siècles, il n'y avait pas de chiisme en Égypte. Maintenant, ils ont des écoles et leur lieu d'adoration enfin, qui sont en train d'être ouvertes. Officiellement. Hum? En Libye, il y a la sécurité en Libye. Les gens, ils ont plus d'argent, ils ont plus de confort, ils ont plus de... Hein? Combien de gens sont morts? Regardez la situation en Syrie. Attention, on ne dit pas que c'est un musulman. Hein? Mais là, c'est un rajul kafir. Les Allemands, ils ont dit que c'est un kafir. Hein? Voilà, Kim. Regardez les Allemands, comment ils réfléchissent loin. Cheikh Mohamed Nahadi, il a fait doua, il a dit, on demande à nos frères, on fait doua pour nos frères, on fait doua pour nos sœurs en Syrie qui souffrent, etc. On les aide avec le doua, avec l'argent, etc. Hein? Le peuple syrien, il souffre, ça, on a là. On pleure tous quand on voit ce qui se passe. Donc, mais qu'est-ce qui a amené à ça? Est-ce qu'ils avaient la capacité? Là. Et regardez, il est en train de reprendre le dessus, là. Hein? Vous voyez, quand on s'attache pas aux ulama, parce que nous, on n'a pas d'ilm, on ne voit pas loin. Les ulama, ils voient loin. Mais subhanallah, quand on écoute les ulama, ça se passe bien. Regardez comment on était encore l'exemple de l'Algérie. Les gens ont commencé à un moment à écouter les ulama, la fitna s'est calmée. Donc, Cheikh, il dit, l'affaire est plus générale que cela, car il n'y a ni mouvement, ni immobilité, il n'y a ni affaire apparente, ni affaire cachée, sans qu'il n'y ait son sujet un jugement d'Allah. Et il est obligatoire de mettre en pratique ce qu'Allah, le Seigneur des mondes, a ordonné en tout cela de manière générale et globale. On va s'arrêter pour ici, Inch'Allah. Pour maintenant, Inch'Allah. On a fait 3 fondements, il y en avait 6. Le 4e, c'est d'appeler à tous les fondements qui ont précédé avec les moyens légiférés, sunnites, hein, et pas avec les domaines, des moyens qui sont des domaines de la mécréance et de l'association, etc., et des innovations religieuses. 5e fondement, c'est que nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse l'un de ces fondements qui ont précédé, chacun en fonction de ce qu'il mérite. Et le 6e fondement, donc le 5e il est un peu long d'ailleurs, Inch'Allah j'essaierai de les continuer via la radio sous la publication, comme on fait d'habitude, et vous les trouverez Inch'Allah sur notre site, spfbirmingham.com, et peut-être que les frères responsables, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'aller sur internet, ça, ils peuvent peut-être leur donner un CD, hein, qu'on aura fini les cours pour qu'ils puissent avoir la suite des cours, Inch'Allah. 6e fondement, dernier, c'est que quand on se dispute, ou quand on diverge, à quoi on doit revenir, nous prenons pour juge le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons, et de ceux qui les ont suivis avec excellence, car leur voix est la voix des croyants. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تؤمنون بالله واليوم الآخر. D'accord. Voilà, donc on s'arrête là-dessus. Et vous avez jusqu'à 9h30, un peu moins d'une heure, Inch'Allah, pour le prochain cours. Wallahu alam. Wa subhanaka wa bihamdik. Hein?
On a 2 heures.
2 heures? Je suis perdu là, c'est le décalage horaire qui me. Hein? On continue ou pas? Non, c'est trop long. Hein? On va s'arrêter un peu, Inch'Allah, parce que.
Sinon, on refait, on fait un 3/4 heure après, là, avant de marrer. On laisse les frères manger un petit peu, 1h, 1h15.
Après, on commence. On est d'accord, en France, il est 8h20 maintenant.
Oui, oui.
Hein? On est d'accord, c'est une base qu'on doit établir d'abord, hein, avant de parler de quoi que ce soit.
Il est moins 25.
Hein? Il est 8h-25, 19h35, ça?
Dans 2 heures, c'est le
Maghreb. Donc, dans 2 heures, c'est le Maghreb. 2 heures, c'est un peu juste pour avoir un cours, manger, etc. Non?
Tu viens samedi prochain?
Allez, je vous propose quelque chose. Hein? On continue jusqu'à 8 heures. Ça? Allez. Et après, vous avez un temps d'une heure et demie. Vous avez, hein, ils ne sont pas d'accord. Jusqu'à 9h30, Inch'Allah. 1h30, Inch'Allah, vous avez le temps de manger, de faire le wudu, de vous reposer, etc. Mais un truc que je vous dis, n'essayez pas trop traîner dans les rues, etc. C'est en grand groupe, etc. Essayez d'aller directement quelque part ou de rester à la mosquée, Inch'Allah. Hein? Pour pas le voisinage, etc. C'est important. D'accord? Parce que peut-être que certains d'entre nous ne sont pas d'ici, et puis on part, et puis on laisse les problèmes aux gens d'ici. Ça, c'est pas juste. Donc on fait le 4e fondement, alors, Inch'Allah. Al-Asl al-Rabi' mimma nad'u an-nasa ilayh, ana nad'u ila kullin al-usul al-sabiqati bil-wasa'il al-shar'iyya, al-sunniyya al-salafiyya, la bil-wasa'il al-kufriyya wa la al-shirkiyya wa la al-bid'iyya. ونؤمن في ذلك بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وأن إقامة دين الله لا تكون بتحريف دينه ولا بتزييفه ومسخه ولا بإدخال الكفريات والشركيات عليه في أصله وفضله وفصله في أصله وفصله ولا باتخاذ وسائل أهل الكفر في الشرق والغرب وسائط لإقامة دين الله في أرضه وإنما نتخذ الوسائل الشرعية السنية السلفية نسير على قدم وخطى خير البرية صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته والدعوة إلى الله جل وعلا من أجل القربات وأعظم ألوان العبادات والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان الإخلاص والمتابعة فكل وسيلة مبتدعة في الدعوة مبتدعة إلى في دعوة إلى الله جل وعلا داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فلا يدعى إلى الله تعالى بوسائل أهل الشرك والكفر والمظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والانتخابات والتحزب والتمثيل والرقص والمسرحيات والغناء وغير ذلك مما ابتدعه الناس في هذا العصر. فهذه كلها وسائل مرفوضة لا تدخل في دين الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقترح إدخالها في دين الله جل وعلا، لأن الوسيلة في الدعوة كالغاية سواء بسواء، والعبارة توقيفية، والدعوة إلى الله رب العالمين من أجل العبادات والقربات فهي توقيفية أيضا في وسائلها، ولابد من الوقوف عند حدود ما بينه الله وما خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا جاء في ديك تخيم فالله ان شاء الله ها جي با مافانسي باسكو لو كاتريم فوندمون اوكيل نوز ابلون لي جان نوز ابلون ا تو لي فوندمون كي اون بريسيدي افيك لي مويان ليجيفيري سوني سلفي اي با افيك لي مويان كي سون دو دومين دو لا ميكريونس ني لي مويان كي سون دو دومين دو لاسوسياسيون الله ني لي مويان كي سون دو دومين دي انوفاسيون ريليجيوز. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette théorie de Machiavel qui dit hein, la fin justifie les moyens. En islam, on n'a pas ça. Les buts sont, doivent être légiférés et les moyens d'arriver au but doivent être légiférés. Les ulama dans l'usul, ils appellent ça, ils disent Al-wasail laha hukm al-ghayat. Les moyens ont les jugements des buts. Wa ma la yatim al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa ma la yatim al-masnun illa bihi fa huwa masnun. Comme disent les ulama. C'est quelque chose de wajib, ce pourquoi obligatoire, ce qui t'amène à t'acquitter cet obligatoire devient wajib. Comme les gens ont donné l'exemple de quoi de la langue arabe. Apprendre le din, c'est obligatoire. Hein? Savoir pour toi ce que tu as besoin de ton din. Donc, apprendre la langue arabe, ça devient quoi? Obligatoire. Parce que sinon, c'est pas apprendre ton din. C'est un exemple que je vous donne. D'accord? Donc, si un but est légiféré, le moyen doit être quoi? Légiféré. Et nous croyons ce sujet que ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut être obtenu que par son obéissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas chercher quelque chose auprès d'Allah en lui désobéissant. Ce n'est pas possible ça. Et que l'application de la religion d'Allah ne peut se faire en altérant sa religion, ni en la falsifiant, ni en la transformant, ni en essayant d'y faire entrer les mécréances et les associations à Allah, que cela soit dans ses fondements ou dans ses branches. Ni en utilisant les moyens des gens de la mécréance à l'est ou à l'ouest, comme des moyens pour appliquer la religion d'Allah sur terre. Nous n'avons donc recours qu'aux moyens légiférés, sunnah salafi. Nous marchons sur les pas des meilleurs des gens, sallallahu alayhi wa sallam, et nous croyons que ce qui se trouve auprès d'Allah ne peut être obtenu qu'en lui obéissant. Et l'appel à Allah fait partie des meilleurs actes qui rapprochent d'Allah et des actes d'adoration les plus importants. Et c'est important de comprendre parce que beaucoup de gens appellent à Allah. Beaucoup de groupes que vous voyez, ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais ils le font d'une manière qui est innovée. Et c'est là le danger. C'est pour ça que tout, et Cheikh Ahmed Bezoun l'a bien expliqué ça dans le hadith de la division des 73 groupes, que ce hadith il indique dans le fatwa al-Malikiyya de l'imam al-Qirawani rahimahullah, que j'ai traduit aussi sur notre site, que le hadith il indique de manière très claire que toute personne qui est sur la place de la da'wah islamique n'est pas nécessairement sur la vérité. Et que toute personne qui appelle à la religion n'est pas nécessairement sur la vérité. Il faut comprendre ça. Et le Cheikh dit donc, il est nécessaire que deux conditions soient réunies dans tout acte d'adoration. Que ce soit ta salah, ton siyam, ta sadaqa, ta da'wa, hein, ta khutba. Tout ce que tu fais dans le din comme acte d'adoration, ça doit être quoi? Deux conditions doivent être là. La sincérité et le suivi du prophète. Tu dois être sincère, tu dois le faire pour Allah, uniquement pour Allah. Et en plus, ça doit être conforme à la sunnah. Si une des deux conditions ne sont pas là, l'action est rejetée. S'il n'y a pas la sincérité, c'est quoi? C'est du shirk. S'il n'y a pas le suivi, c'est quoi? Bid'a. Et un verset du Coran qui regroupe les deux conditions, c'est le dernier verset de Sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فِي الْعَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, c'est quoi? إخلاص. إيه؟ ها؟ فليعمل عملا صالحا. سي كون؟ سي السنة, اتباع السنة, الموافقة السنة. Donc tout moyen à innover dans l'appel à Allah, le Très-Haut entre dans l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Et le hadith se trouve dans les deux authentiques d'après la narration d'Aïcha radhiallahu anha. On n'appelle donc pas Allah par les moyens des gens de l'association à Allah et de la mécréance comme les manifestations. Est-ce qu'on appelle les sit-in? Vous savez c'est quoi un sit-in, hein? C'est une manifestation non violente consistant pour les participants à rester assis sur la voie publique. On fait un sit-in, hein, et on reste assis. C'est quoi ça? Ça fait partie de l'islam, ça. Hein? Et la désobéissance civile, qu'on appelle, hein? L'Isyan al-Madani, ils appellent ça. Hein? Désobéissance civile. Et les élections, et le partisanisme, et les représentations théâtrales, et la danse, et les drames, et la chanson, et autres parmi les choses que les gens ont innovées de nos jours. Tous ces moyens sont rejetés, ne font pas partie de la religion d'Allah, le Seigneur des mondes, et il est interdit de proposer de les faire entrer dans la religion d'Allah, le Très-Haut. Car le moyen dans l'appel à Allah est exactement au même titre que le but en matière de jugement. Et l'adoration est arrêtée à la preuve. Tu fais pas tant que tu n'as pas de dalil. Dans le mu'amalat, pardon, dans tout ce qui est le mu'amalat, c'est autre chose. C'est quoi? C'est qu'il y a pas, c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Tu bois quelque chose, tu manges quelque chose, hein, et tu dis c'est haram, tu dis non, moi de dalil, akhi fillah. Mais toi, tu, hein, si tu n'as pas de dalil qui prouve que c'est haram, hein, s'il n'y a pas de dalil qui prouve que c'est, s'il n'y a pas de dalil qui prouve que c'est haram, c'est mubah. D'accord? L'aslu fil asha il ibahatu. La base dans les choses, du bas-monde, des choses de la mu'amala, de données, etc., c'est l'autorisation. D'accord? Et ça, c'est un rod contre ceux qui disent en islam, tout est interdit. Vous entendez ça des fois, hein? Non, au contraire. Ce qui est interdit est peu par rapport à tout ce qui est autorisé. Parce que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Sauf ce qui est interdit. D'accord? Mais dans l'ibadat, tu ne fais pas tant que tu n'as pas de dalil. Là, tu t'arrêtes. Tu te waqaf. Al-mana. Tu ne fais pas. Quelqu'un te dit, tu fais cette ibadat, tu ne fais pas tant que tu n'as pas le dalil de cette ibadat-là. Donc on a dit, et l'adoration est arrêtée à la preuve, c'est-à-dire que nous ne faisons pas l'acte d'adoration tant que nous n'en avons pas la preuve. Alors que l'appel à Allah fait partie des meilleurs actes d'adoration et des actes qui rapprochent d'Allah. Les moyens de cette adoration sont donc aussi arrêtés à la preuve. Et il est obligatoire de s'arrêter à ce qu'Allah a mis en évidence et à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé. Et avec cela, on aura fini le quatrième fondement. Le cinquième fondement, c'est le suivant. وندعو الناس إلى هذا الأصل الخامس وهو أننا نحذر من كل مخالف في أي أصل مما مر كل بما يستحقه ورد على المخالف أصل من أصول الإسلام وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أن الأمة ستختلف وتفترق فقال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 ملة أو قال فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. ودين الله جل وعلا مبني على التأصيل والتحذير وعلى النفي والإثبات ولابد من الإتيان بهما معا لا يغني أحدهما عن الآخر. والتحذير من أهل الأهواء والزيغ جهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد في سبيل الله شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل وأن يكون خالصا لله جل وعلا. والجرح والتعديل قائمان مادام في الأرض لله دين والناس يجرحون ويعدلون في حياتهم العادية يجرحون ويعدلون الباعة ويجرحون ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباء والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم وبين المحق من المبطل والمهتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر. فلا بد من التحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. لا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك ولا يستقيم الدين إلا به وليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة بل هو مما يتقرب به إلى الله شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل وأن يكون خالصا لله رب العالمين
حياطة للدين وحفاظا حفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونفيا للزيغ زيغ الزائغين للبهتي بهتي البهاتين عن دين رب العالمين وسيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الجرح والتعديل قائمان ما بقي لله في الأرض دين، لأنه لا بد من التحذير من كل مخالف بمخالفته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد على المخطئين والشعراء والخطباء، فإنه صلى الله عليه وسلم ما سمع الرجل على ناقته ينشد شعرا قال خذوا الشيطان خذوا الشيطان لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلي شعرا. قال علماؤنا كان الرجل ينشد شعرا داعرا أو كان ينشد شعرا من شعر الجاهلية تعظم أوثانها، أو كان ينشد شعرا مما يهيج العصبيات بين الناس ويبعث الإحانة والثارات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان خذوا الشيطان. On traduit cette partie-là. Nous appelons les gens à ce cinquième fondement, qui est que nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse l'un de ces fondements qui ont précédé, chacun en fonction de ce qu'il mérite. Alors, il y a des fondements qui sont établis. Toute personne qui transgresse, on met en garde contre ces personnes-là. Et la réfutation du transgresseur est un fondement parmi les fondements de la religion. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié dans le hadith sur la division que la communauté allait diverger et se diviser en disant et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Il fut dit, quel est-il le messager d'Allah? Regardez Sahaba. Il répondit, ceux qui sont sur ce que je suis, moi et mes compagnons. Il y a beaucoup de références, on ne va pas les rapporter pour gagner du temps. Et c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh l'Albani, de toute façon, rahmatullah alayh. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça l'est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'à la grille qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a tracé une ligne. On a parlé tout à l'heure de ce hadith, mais elle est là maintenant. Puis il traça à sa droite et à sa gauche des lignes, puis dit, ceci est la voix d'Allah. Et ces voix-là ont chacune à leur tête un démon qui y appelle, puis il récite à la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et voilà mon chemin dans toute la rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voix. Sur l'An'am, verset 153. Et le hadith est authentique et a été rapporté par Ahmed et d'autres. Authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah. Et la religion d'Allah le trio est basée sur l'établissement des fondements et la mise en garde. Sur la négation et l'affirmation. Il est obligatoire d'avoir les deux ensemble car l'un ne peut se suffire de l'autre. Mettre en garde contre les gens des passions et de la déviation est un jihad sur le sentier d'Allah. Et fait partie des meilleurs genres de jihad sur le sentier d'Allah à condition que cela soit fait avec science et justice. C'est pas n'importe qui fait ça. Et pas avec injustice ni avec ignorance. Chacun en fonction du niveau. Tu l'as même mettre en garde sur quelqu'un, toi tu mets en garde sur quelqu'un. Hein? Et il faut être sincère en cela pour Allah le Très-Haut. La critique et l'éloge existera toujours. Le jarh al-ta'dil. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de jarh al-ta'dil de nos jours. Hein? Et la vérité c'est que le jarh al-ta'dil se divise en deux catégories. Le jarh, la critique et l'éloge des gens du hadith, hein, les hommes du hadith, les gens qui sont dans les chaînes de narration. Cette science-là elle est compilée, les ulama l'ont compilée déjà, alhamdulillah. Mais il y a une autre catégorie qui reste jusqu'à tant qu'il y a un din sur cette terre. C'est la critique des gens d'innovation religieuse. Et ça, il y a ijma' des ulama là-dessus. Cheikh al-Uthaymeen, il l'a dit. Cheikh Rabi, il l'a dit. Cheikh al-Fawzan, il l'a dit. Donc quand il y a un savant qui dit une parole du style, hein, aujourd'hui, il y a les ulama de Jarh al-Ta'dil, ils sont dans leur tombe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il parle de quoi par rapport à l'ilm al-Riwayah, hein. Hein, et les gens des ambiguïtés, ah, ils prennent vite ce genre de paroles. Mais alhamdoulilah, après on repose la même question au même cher, il dit là, j'ai pas voulu dire ça. Et il explique bien. D'accord? Donc la critique et l'éloge existera toujours tant que sur terre il y aura la religion. Et les gens disent, ah, vous critiquez. Lui, il critique dans sa vie tous les jours. Comme le cher dit. Et les gens critiquent et font l'éloge d'autres gens dans leur vie de tous les jours. Ils critiquent ou font l'éloge des vendeurs. Et critiquent ou font l'éloge des gens de métier comme le médecin. Tiens, on va pas chez le médecin tel, c'est un charlatan. Ça, oh là là. Hein? Ça, c'est Jacques Moufassel, il a accepté directement. Vas-y. Hein? Ou les ingénieurs, et les entrepreneurs immobiliers et les ministres, ils vont dire attention, celui-là c'est un voleur, il travaille pas bien, attention, celui-là, les finitions sont pas bonnes, hein? Etc. etc. Hein? Mettre en évidence celui qui a raison par rapport à celui qui a tort et celui qui est guidé par rapport à celui qui est égaré quant à la religion d'Allah, le Très-Haut, ce n'est plus en droit. Il est donc obligatoire de mettre en garde contre l'association Allah et ses gens et contre les innovations religieuses et leurs gens.
L'unicité et le suivi ne peuvent être accomplis que par cela. Et la religion ne peut être droite qu'avec cela. Et cela ne fait pas partie de la médisance interdite. Mais de plus, cela fait partie de ce par quoi on se rapproche d'Allah. Dans l'imam Nawawi rahimahullah, dans Riyad Salihin, il a rapporté « Bab ma yajuz min al-riba ». Et il a rapporté six catégories, ils sont compilés dans un poème, les ulama l'ont compilé dans un poème, hein, six catégories ou six situations où tu peux faire le riba. Et certaines femmes, c'est quoi? C'est obligatoire. Quelqu'un maintenant, il vient demander, hein, ta soeur en mariage. Ça? Et toi, tu sais que quelqu'un le connaît bien parce qu'il est du même village. Elle le connaît depuis longtemps. Et tu vas chez lui, tu te renseignes sur lui, tu dis là, Foulan, attention, c'est quelqu'un qui boit. Il boit de l'alcool. Tu dis, Ahitaqillah, t'as fait riba. Ou tu vas le remercier. Parce que ça, c'est pas un riba qui est obligatoire. Il t'a fait un bayan. Il dit, Jazakallah, khairan, j'ai pas donné ma soeur à cette personne-là. Hein? Mais subhanallah, quand ça touche, subhanallah, le din d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors là, hein, tout change. Kif. Et cela ne fait pas partie de la médisance interdite, mais de plus cela fait partie de ce par quoi on se rapproche d'Allah, à condition que cela soit fait avec science et justice. Et pas avec injustice ni avec ignorance. Et que cela soit sincère pour Allah, le Seigneur des mondes, afin de protéger la religion et de préserver la sunna du prophète digne de confiance. C'est-à-dire ne pas en casse contre quelqu'un parce que tu as une rancœur personnelle. Et afin d'écarter la déviance des déviants et le mensonge des grands menteurs, de les écarter de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et du chemin du prophète digne de confiance sallallahu alayhi wa sallam. La critique et l'éloge resteront tant qu'il y aura sur terre la religion d'Allah, car il est nécessaire de mettre en garde contre tout transgresseur avec sa transgression. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réfuté ceux qui étaient en erreur parmi les poètes et les orateurs. Lorsqu'il entendit l'homme qui était sur sa chamelle et qui récitait un poème, il dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez le démon. Que le ventre de l'un d'entre vous se remplisse de pus, qui lui ronge l'abdomen et le corrompe, est meilleur pour lui qu'il ne se remplisse de poésie. Et le hadith est dans Bukhari et Muslim. Pourquoi, hein, nos savants ont dit que l'homme récitait une poésie obscène, ou qu'il récitait une poésie parmi les poésies de la période, la Jahiliya, en pré-islamique, qui vénérait ses idoles, ou qu'il récitait une poésie qui animait le sectarisme entre les gens et ravivait les rancunes et les vengeances entre les gens. Ça va faire quoi? Hein, ça va faire des problèmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, prenez les démons. Et il est rapporté dans les deux authentiques d'après Abu Huraira qu'à la grecque, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole la plus véridique qui dit un poète est la parole de l'abid. N'est-il pas que toute chose autre qu'Allah est fausse? Asdaqu kalimatin qalaha sha'iru kalimatu l'abid. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. وكاد أمية بن أبي بن أبي عفان السلط أن يسلم ولما قام الخطيب يخطب بين يديه كما عند مسلم في الصحيح فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت الجرح والتعديل وتقوم المعوج وإقامة الأمر على أصله باق على الأرض في الأرض ما باق لله في الأرض دين والمخالفون المنكرون للجرح والتعديل منذ يستيقظون إلى أن يناموا هم آخذون في التجريح والتعديل وربما غلوا فيه فهم يردون على مخالفين من أهل الحق ويردون على أهل السنة بالباطل وينكرون عليهم أن يردوا على أهل الأهواء والأخطاء والزيغ والبدع فيقعون فيما ينهون الناس عنه ويأتون بما يعيبون الناس به هم آخذون بذلك في حياتهم العادية إذ الواحد منهم يحذر من بائع الخضروات والفاكهة ويجرحه ويعدل غيره ويجرح هذا ويعدل هذا إلى ما فوق ذلك من المحترفين وإذا جاء الأمر إلى الدين فتحوا الباب على مصراعيه لأهل الزيغ والهوى وأهل البدعة والضلالة لكي يدخل كل ذا ليفن ببدعته لتشويه دين رب العالمين ولتغيير معالم الملة ولتحريف الشريعة المطهرة وهيهات فإن الجهابلة من أهل السنة لهم بالمرصاد والله المستعان وعليه التكلان. Donc on termine ce cinquième fondement en disant la parole la plus véridique qui dit un poète, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la parole de l'abid, n'est-il pas que toute chose autre qu'Allah est fausse? Et Umayyah ibn Abi Salt faillit se convertir. Le hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud et la formulation est la sienne. Et lorsque l'orateur se met à parler devant lui sallallahu alayhi wa sallam à Khatib, comme c'est rapporté dans l'authentique de Muslim, et qu'il dit Celui qui obéit à Allah et à son messager sera certes guidé. Et celui qui leur désobéit à tous deux. Mais ya'sihima. Le professeur Zim n'a pas aimé cette parole. Mais ya'sihima. Regardez, Himad Janab al-Tawhid. Hein? Et celui qui leur désobéit à tous deux sera égaré. Il s'en a dit alors, quel mauvais orateur tu es. La critique et l'éloge, redresser le tordu et redresser l'affaire comme elle était à son origine, cela reste sur terre tant que la religion d'Allah sera sur terre. Et les transgresseurs qui dénient la critique et l'éloge, ceux qui disent, ouais, vous, le genre ta'dil, etc., eux-mêmes pratiquent le genre ta'dil du moment où ils se réveillent jusqu'au moment où ils se couchent. Ils pratiquent la critique et l'éloge et peut-être même qu'ils sont extrêmes en cela. Ils réfutent ceux qu'ils opposent parmi les gens de la vérité. Ils réfutent les gens de la sunna par le faux. Elle leur reproche de réfuter les gens des passions et des erreurs et de la déviance et des innovations religieuses. Et donc ils tombent dans ce qu'ils interdisent aux gens. Et ils font ce qu'ils reprochent aux gens. Et ils pratiquent cela dans leur vie normale. Lorsqu'un d'entre eux vient mettre en garde contre les vendeurs de légumes et de fruits. Hein? Et ils le critiquent et font l'éloge d'un autre. Ils critiquent celui-ci et font l'éloge de celui-là. Et d'autres parmi les professionnels. Et lorsque la fin concerne la religion d'Allah, ils ouvrent les deux battants de la porte aux gens de la déviation et des passions. Et aux gens des innovations religieuses et de l'égarement, afin que chacun d'entre eux entre chargé de son innovation religieuse, afin d'altérer la religion d'Allah, le Seigneur des mondes, et de changer les jalons de la religion, et de falsifier la législation pure. Et cela est hors de question. Car les grands savants des gens de la Sunna sont aux aguets quant à eux. Et c'est Allah seul dont nous implorons l'aide, et en lui seul que nous plaçons notre confiance. Et donc, pour cette dora-ci, pour cette conférence-ci, on aura fait 5 des 6 fondements. إن شاء الله غيستخرج السيزيام فوندمون إن شاء الله ترميني وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويتر بيل ها إي دونك نفخ المغرب كوا المغرب إن شاء الله أبخي المغرب ونفي الدرس الحقيقي ديال الشيخ الفوزان إن شاء الله إن شاء الله.